France Inter. La rencontre avec l'inconscient est une aventure. On vous emmène cette semaine avec le docteur Nasio.
Chère auditrice, cher auditeur, bonjour. Un mois déjà. Depuis un mois, je ne cesse de vous entendre et de vous parler à l'intérieur de moi. À chaque émission que je prépare, vous êtes là, comme une flamme qui m'anime. Dans cet épisode, nous avons un programme très chargé. Pour commencer, j'aimerais vous montrer le lieu dans lequel je reçois mes patients. Ensuite, je vous raconterai comment je travaille concrètement en tant que psychanalyste. Je prendrai l'exemple de Mathieu, un jeune garçon qui entre en panique quand il doit aller à l'école. Problème, vous l'imaginez toujours dramatique pour l'enfant qui risque de se désocialiser et pour ses parents. Et je prendrai encore l'exemple de Léa, une jeune femme qui souffre également des paniques quand elle doit sortir dans la rue ou se mêler à la foule. Problème tout autant dramatique pour mener une vie normale. Je terminerai notre récit en vous affirmant que le plus important pour moi, psychanalyste, c'est non seulement que mon patient souffre moins, mais qu'il accepte que son passé, fût-il malheureux, soit une partie de lui-même. Nous finirons notre émission en répondant comme d'habitude aux questions que m'ont posées ceux d'entre vous qui ont déjà écouté ce podcast sur la phobie.
L'inconscient avec le docteur Nasio sur France Inter.
Comme je vous l'ai dit, je voudrais commencer par vous montrer le lieu où je travaille. Ce lieu me ressemble. Il est un prolongement de moi-même. Et il est aussi le jardin de l'inconscient de ceux qui viennent me parler régulièrement. Je veux que mon patient s'y sente bien et qu'ainsi il se livre le plus intimement possible. Mais laissez-moi vous décrire le cadre qui m'entoure. C'est une grande pièce, très dégagée, baignée de lumière, au mur crème, avec une cheminée en travertin et dont le sol est tapissé d'une moquette saumon unie et moelleuse. Si vous y étiez, vous sentiriez tout de suite l'ambiance chaleureuse aux lueurs jaunes et oranges qui rendent l'espace aérien. Sous toute la longueur de la baie vitrée, vous trouverez une immense table de travail nappée de soleil sur laquelle j'écris le récit que vous écoutez en ces moments. En dessous de cette table est emboîtée une petite table à roulettes destinée aux enfants. Vous découvrirez encore, accrochée au mur, au-dessus du divan, la reproduction d'un tableau de Bruegel, Grouillon des vies, la fête au village. Et sur le mur d'en face, la copie d'une toile de Rothko aux couleurs jaune et lilas. C'est ainsi que j'aime mon univers et que j'aime que mes patients aient plaisir à s'y retrouver. Certains collègues, au contraire, préfèrent l'austérité d'une pièce sombre, aux tentures obscures et entourées de livres. À chacun le lieu qui favorise au mieux son ouverture à l'autre. Hormis les deux fauteuils en vis-à-vis, nous avons enfin le divan, à propos duquel je voudrais vous dire un mot. Le divan, malgré son indéniable utilité, est considéré à tort comme le symbole de la psychanalyse. ce cliché, l'espoir qu'il n'y aurait pas de psychanalyse, sont divins. C'est une erreur, car on peut conduire une excellente psychanalyse sans utiliser le divan. Il m'arrive souvent de mener une cure à son terme alors que mon analysant est assis devant moi, ou même de faire une séance en marchant avec mon patient le long du quai de la Seine parce qu'il était impossible de se parler dans la pièce à cause du bruit assourdissant d'un marteau-piqueur qui terrassait le trottoir devant ma fenêtre. À propos des séances en dehors du cabinet, je n'oublie pas cette séance étonnante faite dans la rue avec un garçon de 12 ans, Mathieu, dont je vais vous parler maintenant. C'est un jeune adolescent que j'ai reçu pendant un an pour une grave phobie scolaire. Je vous rappelle que la phobie scolaire est une maladie qui touche les enfants entre 8 et 12 ans. Parfois, l'enfant refuse de partir à l'école sous prétexte d'avoir mal au ventre. D'autres fois, l'enfant, pris de panique devant la porte de son école, ne peut pas y entrer. Après avoir reçu de nombreux enfants souffrant des phobies scolaires, j'ai constaté que la plupart d'entre eux ont été des enfants trop choyés par leur mère, elle-même angoissée, et des enfants souvent délaissés par leur père, trop distants. Consciemment, ces enfants souffrent d'aller à l'école, mais inconsciemment, ils souffrent de se séparer de leur mère. Ils sentent l'angoisse d'aller à l'école pour ne pas sentir l'angoisse plus insupportable encore de quitter le giron maternel. Mais revenons à Mathieu. Bien que tout au long de nos séances, nous ayons assoupli la relation trop fusionnelle que Mathieu entretenait avec sa mère, son angoisse d'aller au collège ne cédait pas et le confinait à la maison. J'avais pensé alors qu'en dehors de nos séances habituelles dans le cabinet, il était nécessaire que j'intervienne sur le lieu même où Mathieu s'angoissait le plus fortement, c'est-à-dire devant le portail du collège. J'ai donc proposé au père de venir me chercher en voiture à 8 heures du matin, avec son fils et même avec le chat. C'est très important, la présence du chat. Donc, même avec le chat, pour aller tous ensemble à l'école. Je me revois, assis à la place du passager, le père au volant et l'enfant sur la banquette arrière avec son chat sur les genoux. Aux abords du collège, au dernier feu rouge avant d'arriver, Mathieu, déjà très inquiet, supplie son père « Papa, arrête! Arrête la voiture !» Après nous être garés, nous avons décidé de prendre un café dans le bar d'en face, en attendant que la cohue des élèves ait fait son entrée. Une fois la grille fermée, nous avons tous les trois traversé la rue, toujours avec le chat, mais cette fois dans les bras du père. Devant le portail, je m'adresse à Mathieu, transi d'angoisse, et lui dis « Respire, respirons tous les deux, lentement, avec le ventre. Maintenant, fais comme moi, prends un barreau de la grille, et inspire profondément. » Mathieu fit les gestes que je lui demandais et sans lâcher le barreau, encouragé par ma présence, me pose la question, j'entre ? Non, non, pas aujourd'hui. On va attendre un peu, lui répondis-je. Derrière nous, le père écoutait et observait la scène, et en me tournant vers lui, je lui suggère, il faudrait si possible que vous reveniez avec Mathieu deux matins par semaine et refassiez avec lui les mêmes gestes que vous venez de voir. Et j'ajoute, le jour où Mathieu pourra franchir la porte sans la peur au ventre, essayez de l'accompagner non pas dans sa classe, mais à la bibliothèque. Car j'ai obtenu l'accord de la directrice pour qu'il y travaille quelques heures et rentre ensuite à la maison. Si tout se passe bien, il pourra plus tard rejoindre sa classe. Finalement, le père et la mère ont suivi mes indications et ont réussi peu à peu à désamorcer l'angoisse devant le portail. Je suis sûr que chaque fois que Mathieu poussait la grille d'entrée, j'étais présent en lui, animant le mouvement de son bras. Je ne peux pas vous raconter toute l'histoire de Mathieu, mais sachez que cette rencontre en dehors du cabinet fut décisive pour accélérer la disparition de la phobie de mon inoubliable jeune patient. Sans doute êtes-vous surpris de voir un psychanalyste agir dans la rue ? Certes, ce n'est pas fréquent que j'accompagne un patient sur le lieu de son tourment et que je lui apprenne à modifier son comportement malade. Cependant, un psychanalyste doit savoir jouer différents rôles sans cesser d'être psychanalyste. À tel moment, il est un psychanalyste qui révèle à son patient les causes inconscientes du conflit. À tel autre, il est un psychothérapeute qui apaise le conflit. Et à tel autre moment encore, il joue le rôle d'un guide qui montre au patient comment apprivoiser son angoisse. Je suis donc psychanalyste à tout moment, quelle que soit l'action que j'accomplis. Que je sois dans le cabinet, dans la voiture ou devant la grille du collège, j'ai constamment à l'esprit l'inconscient du patient. Que veux-je dire ? Que lorsque je suis avec Mathieu, par exemple, je vois dans ma tête un petit garçon effrayé à l'idée d'être arraché à sa mère. Mathieu, lui, ressent l'angoisse d'aller à l'école, mais il ne ressent pas l'effroi inconscient d'être séparé de sa mère. Quant à moi, psychanalyste, je ressens tout à la fois et son angoisse consciente d'aller à l'école et son effroi inconscient d'être séparé de sa mère. Vous l'avez compris, le véritable lieu de la psychanalyse n'est pas dans l'espace, mais dans la tête et dans le cœur du psychanalyste.
France Inter, l'inconscient, cette semaine avec le docteur Nasio.
Mais retrouvons notre cabinet de travail. À présent, je vous entends me demander, mais alors à quoi sert le divan et dans quel cas l'utiliser ? Quand un patient s'allonge, il modifie automatiquement son point de vue. Il passe d'une vision verticale et pratique des choses à une vision onirique de sa vie intérieure. Parler à son psychanalyste en étant allongé, c'est comme si l'on se parlait à soi-même à haute voix. C'est pourquoi la parole sur le divan est souvent une parole emplie d'émotions. Or, à qui indiquer le divan? Je propose le divan au patient dont je sens lors des premiers entretiens qu'il a l'habitude de s'interroger sur lui-même et revenir aux événements marquants de son enfance. Ou bien au patient qui, parlant de sa sexualité, pourrait se sentir gêné d'être en face à face. Je propose aussi le divan à l'homme ou à la femme d'action qui, pris dans le tourbillon de sa vie professionnelle, est coupé de ses émotions. Le divan servira alors à l'inciter à revenir sur lui-même et engager un dialogue intérieur. Concrètement, quand je demande à un patient de s'allonger, c'est seulement quelques semaines après le début du traitement. Je veux en effet qu'il ait le temps de se préparer et que le passage au divan ne s'efface pas à la légère. Je souhaite que ce passage soit un moment solennel, tant pour lui que pour moi. Je dis toujours à mes patients avec une pointe d'humour que le divan, ça se mérite. Dès que le patient est allongé, je lui demande de faire silence pendant quelques minutes durant lesquelles il devrait laisser venir à lui des souvenirs, des images, des sentiments, voire des sensations. Je lui précise que moi aussi je vais me concentrer sur lui, laissant libre cours à mon imagination de thérapeute. Après un moment, j'interromps le temps de l'introspection et lui demande de me dire ce qui lui est apparu. C'est ainsi que s'inaugure une prometteuse aventure à deux. Je voudrais maintenant vous parler de Léa, une jeune femme venue me consulter pour une grave phobie de la rue et de la foule qui l'a condamnée à s'écloîtrer dans son appartement. Léa ne pouvait pas sortir seule ni entrer dans une supérette et encore moins courir le risque de se voir coincée entre deux personnes en faisant la queue à la caisse. Pendant les premiers mois de sa cure, elle se rendait à mon cabinet en se faisant accompagner par son mari, sa meilleure amie ou sa voisine. Sachez que, dès notre première rencontre, je n'ai pas hésité à lui prescrire un antidépresseur, non pas parce que Léa était déprimée, mais parce que nous avons des antidépresseurs qui sont aussi très efficaces pour réduire l'angoisse de la phobie et faciliter notre travail psychanalytique. Mais avant de poursuivre avec Léa, laissez-moi répondre à la question « Qu'est-ce que la phobie ?» La phobie, c'est une peur anormale. La peur intense et irrépressible de se trouver sans défense devant un animal vécu comme dangereux, tel une araignée ou une souris. Ou encore, la peur d'entrer dans un lieu fréquenté dont on ne pourrait pas s'échapper à cause de la foule, ni être secouru si l'on était pris d'une crise d'angoisse. Un troisième motif habituel des phobies, dite phobie sociale, est la peur de prendre la parole en public et d'être humilié. Je voudrais que vous compreniez qu'au fond, la phobie, c'est la peur anormale d'un danger imaginaire. C'est la peur de croire que je serai anéanti si je n'ai pas quelqu'un qui me défende contre l'animal qui m'attaque. Que je serai anéanti si je n'ai pas quelqu'un qui me sauve de la foule qui m'oppresse. Ou anéanti encore si je n'ai pas quelqu'un qui m'encourage à parler. L'animal, la foule ou le public ne jouent donc qu'un rôle secondaire. L'important, c'est le danger imaginaire qu'il véhicule. Quel danger ? Être anéanti. Être anéanti parce que je suis seul. En un mot, la phobie, c'est la peur viscérale d'être seul face à un objet ou à une situation que je vis comme étant menaçante. Ajoutons une autre caractéristique très importante de la phobie. Quand la personne phobique a peur, elle réagit impulsivement. Soit en fuyant, elle voit une araignée, elle crie et se sauve en courant, soit en se faisant accompagner pour supporter son angoisse, c'est ainsi que nous avons accompagné Mathieu au collège, soit encore en refusant de sortir de la maison, comme c'est le cas de Léa qui ne pouvait pas descendre dans la rue et encore moins faire ses courses. À présent, je voudrais aborder les causes de la phobie. Rappelons tout d'abord que de nombreux professionnels affirment que la cause de la phobie est inconnue. Cependant, nous, les psychanalystes, nous avons une hypothèse sur l'origine de la phobie, hypothèse largement confirmée par l'expérience avec nos patients phobiques. En effet, nous avons constaté d'innombrables fois que les personnes souffrant des phobies ont été traumatisées dans leur enfance ou adolescence par la perte brutale d'un être cher. Je dis traumatisées et brutales parce que ces pertes ont commotionné un enfant ou un adolescent trop fragile pour les amortir. Je pense par exemple à ce nourrisson qui a perdu tragiquement sa maman, ou à ces petits garçons écartelés entre ses parents qui se déchirent, ou encore à cette adolescente dévastée par la mort soudaine d'une grand-mère qui était tout pour elle. Mais voici ce qu'il m'importe de vous dire. L'enfant qui vient de souffrir un traumatisme tremble et tremblera toute sa vie de peur que le traumatisme d'une séparation violente ne se reproduise. J'insiste, la peur de revivre la séparation reste une crainte permanente qui durera toute la vie. C'est justement cette crainte, cette peur infantile d'être abandonné une deuxième fois, d'être traumatisé une deuxième fois, c'est cette peur qui réapparaît à l'âge adulte sous la forme de la peur phobique d'être seul, d'être séparé de ceux qui me rassurent. Disons-le en une phrase, la peur phobique de l'adulte d'aujourd'hui est la répétition de la peur de l'enfant abandonné d'hier. Vous comprenez alors que la première cause de la phobie est un traumatisme d'abandon vécu dans l'enfance ou à l'adolescence. C'est pourquoi je dis toujours à mes élèves, lorsque vous serez en présence d'un patient ayant des troubles phobiques, demandez-lui avec un tact infini si, quand il était enfant ou adolescent, il a vécu la mort brutale, le départ définitif ou une longue absence d'un des proches qui comptait le plus pour lui. Dans la plupart des cas, cette séquence abandon dans l'enfance, phobie à l'âge adulte, se vérifie clairement.
France Inter, l'inconscient, cette semaine avec le docteur Nasio.
Mais reprenons l'histoire de Léa. Dès le premier entretien, j'appris que Léa avait été abandonnée à l'âge des 3 mois par une jeune mère toxicomane et déprimée. Le père était retourné vivre dans son pays natal avant la naissance de son enfant. La mère, désespérée et malade, avait confié son petit bébé à une nourrice sans jamais revenir le chercher. C'est étonnant, mais c'est ainsi que cela s'est passé. Au bout d'un an, la mère de Léa ayant disparu, la nourrice et son mari ont finalement décidé d'adopter l'enfant. Vous imaginez bien qu'ayant appris que Léa avait été abandonnée, j'ai aussitôt pensé que mon travail d'analyste serait de lui montrer combien sa phobie d'aujourd'hui est le résultat de l'abandon de hier. J'espérais aussi, mais plus tard, amener Léa à imaginer et revivre la douleur que peut ressentir un bébé abandonné quand il perçoit, aussi confusément soit-il, qu'il a perdu les milliers de sensations qui le rattachaient à sa mère. Je me disais que si Léa arrivait à revivre la douleur de son abandon, elle accepterait sereinement que l'abandon, aussi horrible fut-il, soit une partie d'elle-même. Ce sera toujours son abandon. Comment ai-je traité Léa ? Hormis l'antidépresseur que j'avais prescrit à la fin du premier entretien et le travail de reviviscence de la douleur de l'abandon que je m'étais promis d'accomplir, j'ai procédé avec Léa comme je l'avais fait avec le jeune Mathieu. Je voulais que Léa s'habitue peu à peu à sortir dans la rue jusqu'à ce que l'angoisse lui soit tolérable. C'est ainsi que nous nous sommes réunis à trois, la patiente, son mari et moi-même, pour convenir d'un programme, je dirais, d'affrontement progressif de la rue si redoutée. Voici les premières étapes que nous nous sommes fixées. Premièrement, Léa devra descendre le chien et le promener dans le jardin de la résidence en étant accompagnée de son mari. Plus tard, elle fera le même trajet mais sans le mari qui, cette fois, l'accompagne du regard depuis le balcon de l'appartement. Dès que possible, Léa pourra faire la même promenade dans le jardin, toujours avec le chien, mais sans que personne ne la regarde. En suivant notre programme, nous avons prévu que Léa sorte de la résidence et fasse le tour du pâté des maisons en étant accompagnée du mari. Et si plus tard, son angoisse a diminué, elle pourra marcher seule avec son chien jusqu'à la boulangerie au coin de la rue. Je ne mentionne pas les autres étapes que nous avions prévues parce que je préfère en venir tout de suite à une science importante de la cure. C'est la séance où s'est produite la reviviscence de la douleur de l'abandon et à l'issue de laquelle nous avons vu se réduire l'intensité de son angoisse phobique. Que s'est-il passé ? Léa est effondrée. Elle me raconte qu'elle venait de recevoir une lettre recommandée de son propriétaire lui annonçant qu'elle devra quitter son appartement. Un appartement qui était devenu son nid protecteur. En l'écoutant, j'étais touché parce que j'ai senti combien perdre son appartement était pour elle perdre une partie d'elle-même. J'ai aussitôt pensé à Léa bébé quand elle découvre que sa mère ne reviendra plus. Je dois vous dire que j'ai même visualisé la scène où le bébé se flétrit et se recroqueville sur son vide intérieur. Cette scène mentale n'est pas nette comme celle d'un film, mais fortement suggestive, bien qu'évanescente. À ces moments, j'étais moi-même le bébé qui dépérit, tout en restant lucide dans mon rôle de thérapeute. C'est alors que, avec beaucoup de délicatesse, je m'adresse à Léa et lui dis que l'appartement qu'elle ne peut quitter sans sentir l'arrachement me fait penser à la petite Léa lorsque, dans les bras de sa nourrice, elle hurlait pour retrouver sa mère qui ne venait pas. Bien qu'hésitant, je me suis décidé alors à lui rapporter, avec des mots simples et sans emphase, la scène qui occupait mon esprit. Quand Léa m'a entendu parler, elle fut bouleversée. J'ai eu alors l'impression qu'en lui racontant la scène, j'éveillais en elle la même image et la même émotion d'être un bébé abandonné. Cette expérience d'une reviviscence partagée, je ne l'oublierai jamais. Je dirais que l'analyse de Léa, notre analyse, s'est divisée en deux, avant et après, la commune reviviscence de l'abandon. Comme je vous l'ai dit, à l'issue de cette séance, l'intensité de l'angoisse phobique de Léa s'est grandement réduite. Elle n'avait plus besoin d'être accompagnée pour venir à ses séances, et la peur des rues s'est transformée en une simple crainte des transports en commun. Nous avons arrêté l'analyse 2 années après ce moment magnifique des créations mutuelles que fut la reviviscence partagée. Aujourd'hui, je n'ai plus de nouvelles de Léa. Mais je me souviens qu'au cours de la dernière année, elle a porté en séance des brefs récits qu'elle avait écrits avec talent et dont elle m'élisait les meilleurs passages. Il m'arrivait parfois de lui demander de le dire moi-même, à haute voix. En vous parlant de la passion de Léa pour l'écriture, passion qui est née des cendres de sa névrose, je ne peux pas m'empêcher de penser que nous tous, nous devons accepter ce qui nous est arrivé, aussi tragique soit-il. Pourquoi ? Parce que tout ce qui nous est arrivé, heureux ou malheureux, c'est une partie de nous, comme l'abandon de Léa fut une partie de son être. Et j'irai même plus loin. Non seulement nous devons accepter ce qui nous est arrivé comme étant notre destinée, mais nous devons faire, si possible, de cette destinée un instrument de création. Léa a transformé la douleur de son abandon en la passion d'écrire. Ne parte pas. Juste après le disque, je répondrai aux questions que m'ont adressées les auditeurs qui ont déjà écouté ce récit en podcast. Je vous rappelle que nos épisodes sont disponibles sur les plateformes d'écoute et que vous pouvez nous laisser vos questions avant la diffusion à l'antenne sur notre page L'Inconscient, sur franceinter.fr ou sur notre répondeur en téléphonant au 01 56 40 64 04. Mais avant nos échanges, nous écoutons le groupe Junior et leur titre « Panique ».
Ça me fait froid. froid dans le dos. Je perds mes moyens, j'ai plus de mots. Quand dans ce grand bain, ce bain de foule, je sens soudain que je coule. Je retiens mon souffle, je me retiens. J'y peux rien, c'est physique. Songer des goulines, le cœur qui cogne dans ma poitrine. Quand dans ce trou noir de monde, je sens tout à coup que je tombe. Je retiens mon souffle, je me retiens. J'y peux rien, c'est physique. Comme un choc électrique. Je te vois, je panique. Je perds mon sang-froid, je surchauffe. Je reste droit, je deviens gauche. Quand je fais mon chalet. Et je retiens mon souffle, je me retiens. J'y peux rien, c'est physique. Comme un choc électrique. Je te vois, je panique. Je panique.
C'est à vous maintenant, déposez vos questions, je vous écoute.
Bonsoir docteur Nasio, j'ai écouté votre podcast dans lequel vous parlez des causes de la phobie. Je voulais savoir s'il était possible d'évoquer des causes transgénérationnelles, une phobie qui se transmettrait d'une génération à l'autre. Merci de me répondre.
Catherine, votre question est très juste. Tellement juste qu'elle est la même question que de nombreux chercheurs se posent aujourd'hui. Se demander si la phobie se transmet d'une génération à une autre, c'est en vérité se demander quelle est l'origine génétique de la phobie. Eh bien, les généticiens ne savent pas répondre exactement tant qu'ils n'ont pas trouvé le génome de la phobie. Cependant, du point de vue clinique, on sait qu'un patient souffrant de troubles phobiques a 80% des chances d'avoir un parent souffrant lui aussi de troubles phobiques. Donc, réponse à votre question. L'expérience clinique montre que oui, la phobie peut se transmettre d'une génération à une autre, mais la recherche génétique ne l'a pas encore confirmée. Je voudrais ajouter un mot à propos de la transmission transgénérationnelle, c'est-à-dire d'une génération à une autre, des troubles mentaux, quels qu'ils soient, phobie ou pas. Eh bien, nous savons, nous, les psychanalystes, que l'influence sur l'enfant d'un parent angoissé, par exemple, se confirme dans presque tous les cas. Ça veut dire que quand il y a un enfant angoissé, c'est très probable qu'il y ait un parent la mère ou le père angoissé. Quand je suis, par exemple, devant un enfant colérique, je constate presque toujours que sa mère ou son père ont été aussi colériques. Dans le même esprit, quand je suis devant un enfant énurétique, c'est-à-dire un enfant qui fait pipi au lit, un enfant de 10 ans par exemple, je constate presque toujours que sa mère ou son père ont été aussi enfants ou adolescents, eux aussi énurétiques, c'est-à-dire qu'ils avaient ce problème de pipi au lit. Le plus extraordinaire, c'est que nous ne savons pas, aujourd'hui, 2023, par quel mécanisme psychoneurologique ces transmissions se produisent. Par contre, nous savons comment y remédier, puisque je m'en occupe et des patients angoissés, et des patients colériques, et des patients énurétiques, et souvent, j'ai la chance d'avoir de bonnes réussites.
Bonjour docteur, c'est Marie-Chloé. J'aimerais vous poser une question au sujet du petit Mathieu atteint de phobie scolaire. Vous expliquez dans votre podcast que vous avez travaillé à assouplir une relation trop fusionnelle avec sa mère et je me demandais comment concrètement vous vous y preniez au sein de votre pratique clinique. Et par ailleurs, je me demandais, est-ce que justement l'intervention que vous avez faite en l'accompagnant à l'école et en demandant à son papa de participer à cet épisode, est-ce une façon de faire intervenir un tiers séparateur? Voilà. Merci pour votre réponse.
Marie-Chloé, je vous dirais que pour assouplir la relation trop fusionnelle avec une mère, oui, bien sûr, il faut le tiers séparateur. Je vais y venir. Mais avant tout, je voudrais dire une chose importante que je me dis à moi-même souvent dans mon cabinet quand je suis devant un enfant où je vois ou je constate qu'il a une relation trop fusionnelle avec sa maman. Je ne dois jamais oublier, il ne faut jamais oublier, que la dépendance d'un enfant à sa mère est une dépendance nécessaire, une dépendance saine. Lorsque l'enfant se développe et apprend à s'aimer lui-même. Et je dis ça parce que on est toujours, c'est l'ambiance actuelle, et on critique la dépendance. La dépendance, elle est merveilleuse. Je suis un défenseur de la dépendance. Nous avons tous besoin de dépendre de quelqu'un. J'ai une phrase qui est la suivante. Nous avons besoin de l'autre pour être soi. Je la répète. Nous avons besoin de l'autre pour être soi. Eh bien, je vous dis, la dépendance d'un enfant à sa mère est absolument vitale. C'est l'essentiel pour qu'un enfant s'apprécie lui-même, qu'il ait l'estime de soi, même s'il n'est pas nécessairement très autonome et très indépendant. Peu importe, il le sera plus tard. Donc, dépendance saine lorsque la dépendance produit des effets positifs sur l'enfant. La dépendance est maladive, oui, il y en a, lorsque elle affaiblit l'enfant, le rend angoissé et le rend peu sûr de lui-même. Dans ces derniers cas, effectivement, la présence du père, d'une grande mère ou d'un thérapeute, c'est-à-dire d'un tiers, cela va assouplir la relation maladive, trop fusionnelle avec la mère.
Bonjour, je m'appelle Sacha. Ma question est la suivante. Je voudrais savoir si la misophonie, qu'on appelle souvent la haine du bruit, est une phobie. Je souffre de cette misophonie depuis l'enfance. Ça a dû commencer vers 6 ans et j'en souffre toujours maintenant que j'ai largement dépassé la soixantaine. Je ne supporte pas certains bruits, particulièrement les bruits de bouche, quelqu'un qui mâche quelque chose, un chewing-gum, enfin, et certains bruits autres qui ne sont pas forcément très forts m'insupportent et créent chez moi une sorte d'envie de violence. Je ne supporte plus, ça me met en colère. Je suis obligée d'avoir recours à des comportements d'évitement, en ce sens que je mets des boules-quies ou autre chose, ou je sors de la pièce quand cela est possible. Cette phobie, si cela en est une, n'est pas tellement étudiée. Et j'aurais aimé savoir si on peut se soigner, si pour moi, en l'occurrence, ce n'est pas trop tard, mais je sais que beaucoup d'autres personnes souffrent de cette, ce que j'appelle une maladie, une sorte de maladie. Merci pour votre réponse.
Sacha, oui, bien sûr qu'on peut se soigner. Tout au moins, on peut la diminuer pour qu'elle ne soit plus insupportable. Vous savez, il y a différents types de soins d'une maladie. Une maladie peut être soignée jusqu'au bout, ça veut dire qu'il n'y ait plus de récidive, qu'il soit vraiment une rémission complète des symptômes, ou bien on peut traiter la maladie de telle sorte que les symptômes ne viennent pas insupportables. Que je puisse m'adapter à ma maladie et qu'elle ne me dérange plus dans ma vie. Ça veut dire quoi, ne pas me déranger dans ma vie? Qu'elle ne perturbe pas mon travail, qu'elle ne perturbe pas mes relations amoureuses. Bref, surtout l'amour et le travail. Et puis, il y a la maladie qui, malgré le traitement, elle reste quand même envahissante et perturbe nettement la vie quotidienne de la personne, du patient. Je connais bien ce problème de la misophonie. Pourquoi ? Parce que c'est un problème dont certains patients, je dirais de nombreux patients, m'ont parlé et souffrent de cela. Ce n'est pas agréable, ce n'est pas un problème grave en soi, mais c'est un problème qui tourmente, qui dérange, qui est présent. Et donc, c'est vrai, c'est une phobie, oui, insupportable, qui perturbe les relations sociales, en particulier les relations familiales ou amoureuses. Je me permets, Sacha, de vous conseiller de consulter un thérapeute. Quelle que soit sa technique, un thérapeute qui s'investisse avec vous, qui a envie de travailler avec vous et de résoudre ces problèmes, ou tout au moins de le diminuer. Et je dirais qu'il faudrait qu'avec lui, vous trouviez les toutes premières expériences de répulsion devant les bruits du corps, en particulier de la bouche. Je suis sûr que tant enfant, vous avez eu des expériences, des sensibilités à qu'il y ait des bruits qui viennent, par exemple, du père. Un père trop dur, un père qui était négligent vis-à-vis de lui-même, qui s'est montré nu dans la maison, qui était un peu impudique, aussi avec les bruits, des bruits de la bouche, des bruits des gaz qu'il pouvait émettre. Bref, il faut voir s'il n'y avait pas déjà, enfant, une ambiance avec un papa surtout, ou avec un autre personnage de votre famille, où il y avait une relation ambivalente, où l'amour côtoie la rage, la haine, la répulsion. Donc, voilà ce que je me permets de vous orienter à travailler avec ce thérapeute dans cette direction. Ça veut dire l'enfance et la relation avec le contexte familial et la présence des bruits qui pouvaient déranger l'enfant.
Oui, bonjour. Que pourrait-on dire d'un enfant de 2 ans, sachant à peine parler, un petit garçon, qui supplie sa mère de ne pas le laver, qui est phobique du savon, du contact avec le savon, et qui est resté comme ça très très longtemps, En sachant que cet enfant est né dans un couple marié, il n'y a pas eu d'abandon, pas de perte, enfin voilà. À l'âge de 2 ans déjà, on entendait gémir, il faut pas me laver, maman, faut pas me laver. Je voulais savoir quelle pourrait être une explication possible. Je vous remercie.
Votre question, Cathy, est une question, permettez-moi de le dire, est une question très sympathique. D'abord, je ne suis pas sûr qu'il faille parler de phobie chez votre petit garçon. Et je me permets de vous conseiller même de ne plus parler de phobie devant lui parce que vous allez le rendre phobique alors qu'il ne l'est pas. Ensuite, je voudrais vous donner un conseil pratique. Quand vous le lavez avec de l'eau tiède, sans utiliser de savon. Parce que le savon, il n'aime pas le savon, il ne veut pas de savon. Et peut-être il n'aime pas non plus de l'eau. Donc, vous le lavez avec de l'eau tiède en commençant par les pieds, par la plante des pieds. Et avant de les laver, s'il vous plaît, vous lui faites comme un massage en mettant la paume de votre main collée à la plante de son pied. Il faut qu'il sente d'abord comme une sorte de massage. Vous ne les lavez pas, vous lui faites ces massages. Et après, vous lavez et vous lui lavez les pieds. Au bout de quelques jours, si vous pratiquez comme je viens de vous dire et si vous avez réussi à rendre ces mouvements, ces relations un peu ludiques, c'est-à-dire que ce soit comme jouer, alors à ces moments, vous pouvez introduire le savon toujours en commençant par les pieds. Donc, n'affrontez pas l'enfant directement. Allez de manière latérale à la partie du corps qui l'affecte le moins, c'est-à-dire la plante de pied. Faites ça et vous verrez. Probablement, l'explication de cette gêne de cet enfant, qui est une gêne, comme je viens de vous dire, de ne surtout pas dramatiser, c'est une gêne qui va être passagère, vous allez voir. Ne vous acharnez pas. Probablement, l'explication vient de vous ou de votre mari. Non pas parce qu'il y a eu des problèmes dans le couple, comme vous dites, c'est un couple, une ambiance familiale qui s'entend bien, mais certainement, il y a eu quelque chose de vous qui a pu influencer l'enfant pour qu'il y ait cette réaction phobique, entre guillemets, j'insiste, cette réaction de refus de se laver avec du savon. Merci pour vos questions et merci à Dofar Guérid, à la technique, Valentine Chedbois pour le choix du disque, Franck Olivard qui récolte vos questions, Étienne Bertin et Audrey Ripouille à la réalisation. La semaine prochaine, vous avez rendez-vous avec Clotilde Le Guil qui vous parlera des cauchemars et de leur répétition. D'ici là, vous pouvez écouter son podcast sur notre page internet L'Inconscient sur franceinter.fr et lui laisser vos messages. Pour ma part, je vous donne rendez-vous le dimanche 26 mars à 15h pour vous raconter trois histoires. L'histoire de Gilles, de Loïc et d'Omar.